La dernière étude que nous avons menée, c'était au niveau de ce qu'on pourrait appeler la double minorisation au niveau linguistique, comment des identités des groupes, vous voyez, donc des jeunes par exemple dont vous parlez, sur les manières, les façons de parler. Et déjà, on sait que les jeunes francophones en contexte minoritaire ont déjà un problème de minorisation par rapport à l'anglais dominant, hein, l'espace anglo-dominant. Mais entre eux, ils voulaient encore, ils faisaient encore face à des phénomènes de, je dirais, de discrimination linguistique, au sens où la référence du langage, c'est la façon de parler au Québec. Alors, ceux qui ne parlent pas comme au Québec, parce que si vous allez un peu plus vers l'est, hein, du Canada, il y a d'autres types de langages. Les jeunes ont d'autres niveaux de langage. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on parle beaucoup du Chiac au Nouveau-Brunswick. Et donc, ces façons-là, à leur tour, sont discriminées sur la référence de la façon de parler comme au Québec. Donc, ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Mais ce que moi j'ai observé, c'est certain, le phénomène n'était pas très marqué au niveau des langages intermédiaires, n'est pas très marqué en Alberta ici. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une histoire familiale qui imprègne déjà le jeune, voyez, le vécu parental, voyez, et ça imprègne, ça fragilise, ça potentialise la fragilité de l'individu. Mais il y a des jeunes un qui dit, à l'école primaire déjà, lui, il était discriminé par les anglophones. Vous voyez, il était intimidé, une sorte de, je dirais, de taxage, hein, vous voyez. Et ça, il dit, ça l'a amené à changer d'école. Vous voyez, il a changé d'école où il a semblé avoir aussi quelques amis francophones, parce que tout est toujours une question du lien social. Comment le lien social est géré? Vous voyez, le lien social, comment il est géré? Et c'est ces jeunes-là, ça a eu un impact sur l'appartenance au milieu scolaire, le sentiment d'appartenance, et ça a mené à un itinéraire scolaire plus varié, très tourmenté, compte tenu de ces formes de, je dirais, d'intimidation. Ultimement, le problème qui s'est posé par la suite, c'était les questions des ressources, l'accès aux ressources. Et pour les jeunes ici en milieu francophone minoritaire, les ressources disponibles dans leur langage font beaucoup défaut. Voyez? Alors, quel est le recours? L'alternative, c'est souvent la tante, l'oncle, en tout cas la parenté, de façon collatérale, sur les côtés. Mais quand ils veulent cacher, et ce jeune-là, il dit, il y a certains problèmes pour lesquels moi je ne veux même pas approcher un parent. En ce moment-là, ils vont recourir aux institutions, aux ressources anglophones, parce qu'on veut sortir du milieu. Vous voyez, donc, on n'a pas vu de phénomène très particulier ici au niveau de l'Alberta, mais dans l'Ouest, c'était très marqué. Les façons de parler, le type de langage, ça avait une grosse influence sur l'estime de soi. Mais une fois de plus, comme je dis, tout dépend de la fragilité de l'individu, comment on s'approprie, comment on fait face à l'adversité, quelles sont les sources d'aide. Vous voyez, parce que face à l'adversité, souvent, ça prend aussi des sources d'aide. Et ce qui manque souvent, c'est la disponibilité des ressources. Vous voyez, des ressources humaines ou technologiques, sanitaires. Ça fait beaucoup défaut. Et un phénomène qu'on constate, que moi j'avais constaté au Québec, c'est que si vous prenez les politiques de prévention sur les accidents routiers, vous allez comparer le budget, je ne les ai pas en tête. Et pourtant, le suicide tue beaucoup plus que les accidents routiers. Alors, où est-ce qu'on devrait mettre les investissements, les politiques, engager les politiques de prévention? Alors, il y a une question de société, une question qui, je ne sais pas, il y a des zones de sensibilité peut-être auxquelles les gens ne savent pas faire face, hein, mais bon, en gros, c'est ce que je peux dire pour le moment.